18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, comme tous les jours d'ailleurs, les informés, avec ce nouvel horaire. Le nouvel horaire, vous le savez, qui ne change pas d'ailleurs, enfin qui ne change pas si d'ailleurs, pour cette rentrée, évidemment, cette rentrée de cette nouvelle saison, c'est désormais 18h. 18h, 19h30, c'est votre nouveau rendez-vous des informés, à ne pas manquer. Les informés, évidemment, bien sûr, plus que jamais, eh bien, on commente, on analyse, on décrypte l'actualité. Au sommaire, c'est parti, vous le savez. Trois sujets qui retiennent notre attention aujourd'hui. On viendra sur, notre invité, monsieur Frédéric Bocara, qui sera avec nous, un spécialiste de l'économie. On parlera avec lui cette question d'assurance chômage qui peut changer la réforme, les demandeurs d'emploi. Ensuite, avec les débatteurs, nous parlerons, vous savez, du Conseil national de la refondation, cette nouvelle instance. Est-ce que c'est pas une coquille vide? N'est-ce pas aussi également une manière de faire participer l'opinion publique? Mais comment, finalement, ce Conseil de refondation? On va en parler, puisque le coup d'envoi, il est déjà très contesté. Nous reviendrons aussi, vous savez quoi? Eh bien, sur ce qui a fait polémique. Nous nous sommes trompés. Ça, c'est une déclaration d'Olivier Véran qui revient sur les erreurs du gouvernement au début du Covid-19. Il dit tout simplement, vous savez quoi? Eh bien, qu'on s'est trompé sur les casques et qu'il présente ses excuses sur les masques, pardon, et que nous nous sommes trompés. Alors, est-ce que vous trouvez cela un peu léger après, effectivement, plusieurs mois qui ont fait, rappelons-le, scandale, qui ont soulevé notamment aussi beaucoup de questionnements? On en parlera avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, vous, au 01 53 48 3000, vous savez, une question que je pose, c'est la question du gaspillage. Le gaspillage, une note qui a été, évidemment, qui est tombée sur la lutte contre le gaspillage. Alors, vous êtes nombreux, un tiers des Français, jettent ces restes. Est-ce que vous trouvez cela normal? Alors, vous savez, c'est un peu l'équivalent des 67 euros par mois. 67 euros, pour moi, c'est beaucoup. 67 euros d'aliments qui sont jetés. Alors, est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous jetez l'équivalent de 67 euros? On va parler de gaspillage avec vous à partir de 18h10 au 01 53 48 3000, alors qu'on est en pleine crise de l'inflation. Franchement, est-ce que gaspiller trop, c'est le moment où est-ce que vous prêtez attention? 18h30, c'est le quoi de neuf, avec le grand Pascal Boniface qui viendra tout à l'heure nous parler de la guerre en Ukraine. Voilà le sommaire, c'est parti, et vous le savez vous aussi, plus que jamais, en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et bonjour, nous sommes avec notre premier invité, c'est parti, jingle, invité.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec Frédéric Bocara. Bonjour, mon cher Frédéric Bocara.
Bonjour, mon cher Adil. Ça fait longtemps. Je suis heureux de te retrouver,
les auditeurs. Vous savez, franchement, non seulement c'est un plaisir de vous retrouver sur l'antenne, mais un plaisir de vous entendre. Merci d'être avec nous, mon cher Frédéric Bocara, spécialiste de l'économie, économiste d'ailleurs, administrateur de l'INSEE. Vous êtes aussi, vous avez été, un ancien membre de... du conseil du forum.
CESE, le fameux conseil économique, social et environnemental.
Absolument. D'abord.
Alors, il ne faut pas dire que je suis administrateur de l'INSEE, je ne parle pas au nom de l'INSEE. Je peux me faire sanctionner si vous me présentez comme administrateur.
Pas du tout. Vous intervenez. En votre nom propre, en tant qu'économiste. D'abord, dans quel état d'esprit vous êtes en cette rentrée comment vous la qualifiez, cette rentrée, mon cher Frédéric Bocara? Comment vous la captez et quelle est l'ambiance du moment?
C'est la convergence des crises en réalité, cette rentrée.
Oui.
La convergence de toutes les crises qui font système, et effectivement, tout le monde en a conscience, la récession, on est au bord de la récession. Et au lieu de...
On est au bord de la récession juguler, ou est-ce que la récession va commencer?
Ah ben, on est dedans, en réalité on est dedans, mais factuellement, en termes de chiffres, il faut que ce soit deux trimestres de suite où il y a un recul du PIB. Et comme la spécialité de nos gouvernants, c'est de gouverner aux fins, donc d'éviter un petit peu le pire, ils vont éviter qu'il y ait deux trimestres de chute tout de suite. mais ce n'est que reculer pour mieux sauter.
Reculer pour mieux sauter.
En réalité, voilà, on a la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui a assumé, qui a dit j'augmente les taux, prétendument pour attaquer l'inflation, mais en réalité pour protéger le rendement du capital, qui se, lui, effectivement, elle souffre plus de l'inflation. Et il a dit, je prends le risque d'une récession.
Oui.
Le président de la Fed.
Le Fed dit, ouais, oui, oui, oui.
Donc, c'est très grave. Et la récession, elle va être... Et parce qu'il pense que ça va être une petite...
Mon cher Frédéric Bocora...
Par exemple, quelqu'un de la Banque Rothschild qui a dit, c'est pas grave, ça va être une petite récession. Ça va être grave. Le chômage fera très grave, alors qu'il y a des pénuries d'emplois considérables. Et le problème, c'est pas d'aller tordre le bras des chômeurs pour les mettre au boulot, c'est de former massivement les gens. Former. Mais pour ça, il faut qu'ils changent de logiciel. Pour l'instant, nos gouvernants ne sont pas capables de changer de logiciel. Et même mes amis de gauche, ils n'arrivent pas à changer de logiciel.
Dites-moi, Frédéric Bocara, monsieur l'économiste, est-ce qu'on va vivre de, pour être trivial et pour vous me permettrez cette expression, de sales moments?
Alors, c'est toujours compliqué, parce qu'on pense qu'on va vivre de sales moments. Mais peut-être que si on est tellement lucide sur les sales moments, qu'on va avoir une réaction finalement du corps social pour empêcher la chute complète. Il y a une petite possibilité qu'il n'y ait pas de sales moments, parce que le corps social va résisterait. Mais sinon, oui, on est. D'ailleurs, on les vit déjà, il y a beaucoup de gens qui vivent des sales moments. Enfin, une fois qu'on a fait, avec la hausse de l'essence, une fois qu'on a fait 3, 4 pleins, oui, pleins par semaine. Remplir un frigo, on n'arrive pas à remplir le deuxième. Hein.
On va parler.
Il va falloir payer le chauffage.
Monsieur l'économiste Frédéric Bocara, on va parler.
Monsieur
vous
Radil.
Savez quoi? Assurance chômage, on est en pleine actualité. Et je voudrais vous poser cette première question. Comment ça va se passer en gros là, je veux vraiment qu'on rentre dans le concret. L'indemnisation, ceux qui nous écoutent, qui sont chômeurs, on parle de réforme, c'est un peu le chapitre 2, l'épisode 2. Qu'est-ce qui pourrait changer éventuellement, et notamment quand on fait référence à l'indemnisation?
Oh ben c'est très simple, hein. Ils l'ont assumé, ils veulent durcir. Donc, moins indemnisé, moins longtemps, et durcir l'accès à l'entrée dans le chômage.
Ah.
Voilà, c'est clair. Et ils disent, ah oui, mais on va faire un truc sympa. Vous serez un petit peu mieux indemnisé. La conjoncture est mauvaise. Mais quand la conjoncture est bonne, alors là, vous êtes moins indemnisé. Mais qu'est-ce qu'ils appellent la conjoncture bonne? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire, par exemple, quand il y a des métiers en tension? Et alors donc, au lieu de vous offrir une formation,
oui,
que les gens attendent, on manque de routiers parce qu'on manque de gens formés, on manque de soudeurs parce qu'on manque de gens formés, on manque de profs parce qu'on manque de gens formés, d'infirmières, enfin, je ne vais pas faire toute la liste
bien
des
sûr
métiers. Ils attendraient d'être formés. On va pas vous proposer une formation.
Donc en réalité, Frédéric Bocara, l'exécutif, il veut faire quoi? Il souhaite quoi? Moduler les conditions de l'assurance chômage?
Si, moduler pour durcir. Parce que, qu'est-ce que c'est sa philosophie? Pour lui, c'est fainéant, ce qui est pas vrai. Deux, il faut maîtriser son boulot coûte que coûte pour qu'il atteigne n'importe quel boulot. Mais ça ne marche pas. On va s'effondrer. Il y a vraiment un problème des besoins de qualification. Le travail humain, ça peut être très riche,
oui, oui,
très efficace, mais il faut des gens qualifiés,
oui,
dans votre métier comme dans le mien, et dans tous les métiers, les aides à domicile aussi.
Mm.
Et troisièmement, ils pensent que la conjoncture, c'est, comment dire, c'est fatalitas, c'est l'inchallah, c'est comme ça. Donc non, s'il y a des licenciements, on ne sait pas d'où ça vient. Grand enjeu. C'est elle qu'il faut changer. Donc, pas touche aux grandes entreprises. Excusez-moi, je vais utiliser un gros mot, ce qu'on appelle le capital. Allô?
Capital? Oui, non, je vous écoute attentivement.
Voilà,
vous savez,
le capital,
vous êtes...
là, j'ai attiré le silence. Là.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, je vous rassure du tweet. Le gouvernement, il veut. J'ai entendu attentivement ce que vous êtes en train de nous dire, mais je voudrais quand même comprendre, Frédéric Bocora. Il veut démontrer quoi au juste avec cette réforme? Est-ce que j'ai bien compris, hein, vous dites qu'ils veulent,
oui,
durcir, ils veulent le plein emploi, mais est-ce qu'il va
eux
pas
le
être...
plein emploi, c'est-à-dire forcer tout le monde à de l'emploi, n'importe lequel.
Bon, comment vous voyez les choses? Est-ce que les chômeurs vont réagir?
Alors, c'est peut-être ce que vous avez en tête. La finesse ou le cynisme de cette réforme, c'est qu'elle divise. C'est pas du tout comme la réforme des retraites qui unifie le corps social contre la réforme. Celle-ci, elle va diviser, et elle divise déjà. Parce que on se dit, je suis pas chômeur, c'est pas pour moi. Mais ils vont montrer du doigt les chômeurs. Allez-y, bossez, allez, les profs, faites 4 jours de formation et puis allez enseigner. Mmh. Vous et moi, si on avait appris à lire avec un instit qui avait 4 jours de formation, on serait pas très bien, hein,
ah,
Adil.
Oui.
Voilà. Donc ils vont diviser. Alors bien sûr, ils ont un peu de réalisme, ils vont faire 2-3 choses dans les coins. Même le patronat va dire attention, faites pas des folies. Donc ça va pas être le tsunami absolu. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, ni même en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qui n'est pas le pire du pire. Mais bon, ça va taper. Alors qu'il y a des leviers, hein.
Oui.
On pourrait être...
Mais en réalité, qu'est-ce qu'on attend alors que cette réforme nous prépare à quoi au juste, pour mieux comprendre, vous, l'économiste?
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Emmanuel Macron, excusez-moi, il faut faire de la politique. Hein. L'économie et la politique, c'est jamais très loin, parce qu'il y a les questions des pouvoirs, et la politique, c'est les pouvoirs. Bon. Emmanuel Macron, faut jamais oublier qu'il est le mandant d'un certain nombre de gens, les très grands patrons. Il faut se rappeler que sa première campagne, les premiers mois de sa première campagne, ou les 4 premières semaines, son siège, le siège de campagne, était situé au domicile de Claude Bébéard, ancien patron d'AXA, l'énorme assurance, et qui est désigné généralement comme le parrain du capitalisme français. Voilà ses mandants. Donc lui, il veut 2 choses. Il veut quand même que...
On vous a perdu, hein, monsieur.
Allô,
non, on a perdu les quelques mots. Vous apprêtiez à dire, il est le patron des capitalistes.
Oui. Et donc Macron, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut 2 choses. Il est dans leurs mains, bien sûr, mais il est leur mandant, il est leur représentant. Mais il veut quand même que ça pète pas, un peu de paix sociale, comme ils disent. Mais il veut aussi les satisfaire. Et pour ça, ils veulent du jus, du profit. Parce que leur capital a tellement gonflé. Hein, quand je veux, par exemple, un rendement de 10%, j'ai 100, avoir 10%, il me faut... Vous suivez?
Oui.
Si maintenant, au lieu d'avoir 100, mon capital, il vaut 200, pour avoir 10%, il me faut 20. Bon, la valeur de leur capital en bourse, c'est purement, de la spéculation, c'est du papier. Mais la valeur, elle a augmenté de 60%. Donc ils veulent 60% à prendre sur la bête. Donc il faut chasser les dépenses sociales, les dépenses pour les travailleurs, les dépenses pour les services publics, etc.
Alors on fait quoi, Frédéric Bocora? On fait quoi? Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il faut exiger que les entreprises se comportent autrement, que l'État utilise ces leviers publics autrement. Les aides publiques, il y a 160 milliards d'aides publiques. Et il faut les mettre des conditions très fortes. Ça, parce que de l'autre côté, ça monte dans la société. On dit partout, il faut des conditions. Des conditions sociales, des conditions écologiques. Même Elisabeth Borne, elle dit ça. Et puis elle le fait pas, bien sûr. Donc, il faut exiger ça partout. Dans les territoires, dans les municipalités, dans les régions. Et comme idée au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis il va falloir résister à cette réforme de l'assurance chômage.
Absolument.
Ça, c'est une grande question. Et en réclamant des formations, il faut les prendre à revers. Vous êtes à côté du sujet. Il y a 2 enjeux. Un, former. Mais ça exige de renverser votre logiciel, vos priorités. Et deuxièmement, changer le comportement des entreprises. Il va falloir s'unir, en tout cas, pour ça.
Merci. C'est toujours, vous savez, un plaisir de vous recevoir sur l'antenne, Frédéric Bocara. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
C'est la conjoncture un peu grise. Ah, on est en fin de journée, on n'est pas ce matin, mais bon, c'est pas grave. Les matins se lèveront demain aussi.
Merci, et au plaisir de vous retrouver, Frédéric Bocara.
Au plaisir, cher Adil, je suis disponible.
Absolument, avec grand plaisir, économiste, statisticien français, notamment ici même avec nous. C'est toujours un plaisir de le recevoir, notre économiste.
Et citoyen du monde.
Et citoyen du monde surtout, voilà, vous avez raison. Allez, 01 53 48 3000, je vais ouvrir l'antenne. On va marquer la page pub et je voudrais entendre tous celles et ceux qui nous écoutent concernant le gaspillage alimentaire, et notamment aussi l'assurance chômage, si vous souhaitez donc réagir. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Bonne soirée à tous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h21, alors que vous le savez, au Royaume-Uni, les pensées, enfin beaucoup de messages défilent concernant la reine Elisabeth II. William, Andrew, Edward sont en ce moment au chevet de la reine Elisabeth II. Évidemment, bien sûr que les informés, nous sur Beurre FM, on vous tient au courant concernant donc cet événement. Mesdames et messieurs, je vais ouvrir l'antenne 01 53 48 3000. Alors qu'on est en pleine crise de l'inflation, chers amis. Alors, on parle de gaspillage. Oui. Paraît-il que nous tous, on jette l'équivalent de 67 euros d'aliments chaque mois. Sauf que 67 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent quand même, 67 euros. Alors, comment on doit le comprendre ? Est-ce que vous faites partie de ces, évidemment, de ces personnes qui jettent des aliments, qui gaspillent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont laissé passer la date, évidemment, d'expiration. Bref, 01 53 48 3000, on parle même d'ailleurs de 81 euros en moyenne. 80 euros. Et on est en pleine inflation. Ce qui veut dire qu'en gros, on est en train de vivre des moments difficiles. Et en même temps, dans ce paradoxe, il y a entre 67 euros d'aliments jetés, donc ça s'appelle du gaspillage, et pour certains, 81 euros en moyenne. Ce qui veut dire qu'en gros, 35% des Français jettent régulièrement des aliments dont ils n'ont pas besoin. Bah, clairement, disons-le, ça s'appelle du gaspillage. Alors, est-ce que vous faites partie de ce, évidemment, de ce chiffrage, des 35% ou des 67, évidemment, ou ceux qui participent à ces 67 euros, de l'équivalent en tout cas, 01 53 48 3000. Le standard est ouvert, je vous attends, venez en parler tout de suite sur l'antenne des informés pour comprendre évidemment et pour évidemment réagir à cette économie. C'est vrai, tiens, je vais en parler avec vous, Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir.
Est-ce que vous faites partie ? Bonjour.
Bonjour, bonjour et heureux de vous revoir, Adil.
Absolument, partagez, heureux aussi.
Partagez l'antenne de Beurre FM.
On va vous retrouver dans une poignée de minutes, justement, dans le face à face. Ça vous parle, ça ?
Bien sûr que ça
vous
me parle.
Vous faites partie de ces Français ?
Je fais partie de ceux qui ne jettent rien.
Rien ?
Rien. Je considère que l'alimentation, la nourriture, c'est quelque chose de sacré.
Rien, ça vous...
Ben non, rien. Non, je ne jette pas. Non, pour moi, la bouffe, c'est quelque chose de sacré, c'est tout. C'est quelque chose auquel on... Enfin, on ne touche pas. Si, on touche pour s'alimenter, mais le pain dur, je le mange, je ne jette pas. Je consomme ce que j'ai acheté. Je fais attention, justement, aux dates et on fait en sorte de ne pas acheter plus que ce qu'il ne faut. Et voilà, et on surveille l'alimentation. Je pense que ça fait partie d'une éducation.
Ça vous choque, là, ces chiffres-là ? Bien sûr que c'est choquant.
Surtout que c'est une moyenne. Hein,
c'est une moyenne.
Ça vient d'être dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui jettent beaucoup plus. Et moi qui ne jette rien, ça veut dire que par rapport à un autre, il y en a un qui jette pour 160
euros. J'aimerais entendre les auditeurs, justement, au 01 53 48 3000. Est-ce qu'ils font partie de ces gens ou est-ce que, comme Jean-Pierre, vous jetez rien ? Vous arrive d'ailleurs même d'ailleurs de le pain dur par exemple.
Oui, de recycler bien sûr. Recycler. Oui, tout à fait. Ce qui reste, on essaie d'en faire de les agrémenter en un plat. Enfin bref, on fait quelque chose qui reste toujours consommable. Je crois que c'est fondamentalement une question d'éducation. Si on a été élevé comme ça en respectant la nourriture, ben vous jetez rien, c'est tout. Il y a suffisamment de gens par ailleurs qui en manquent et je trouve que c'est même indécent d'entendre ce qu'on entend, quoi, d'entendre ce chiffre-là de gens qui jettent la nourriture, qui méprisent la nourriture. Pour moi, c'est scandaleux, quoi. C'est purement scandaleux.
Est-ce que c'est scandaleux également pour vous ? Vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je vous attends au standard, justement, pour en parler. Moi, ça me choque, c'est vrai, ça me choque, parce que quand on parle justement d'inflation et quand on est en pleine crise économique, effectivement, entre 67 euros, 80 euros, ça...
Ça interpelle.
Ça interpelle, ça interroge, ça questionne, notamment sur, évidemment, parce que c'est une moyenne, vous l'avez rappelé, et qu'on peut se poser la question aujourd'hui, c'est vrai, parce que certains ont du mal à vivre.
Beaucoup comptent, effectivement, le panier de l'alimentation, le panier de la ménagère, comme on disait autrefois.
C'est ça, on le dit toujours.
Voilà, ça correspond peut-être aussi à une société d'hyperconsommation. On a incité aussi les gens à hyperconsommer, consommer n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et de fait de se saturer en nourriture et de mépriser le reliquat. Et ça, c'est vraiment un marqueur de notre société de consommation actuelle, de surconsommation.
Je vous attends partout en France. On va marquer juste une petite pause musicale. 01 53 48 3000. Je vous attends partout en France. Est-ce que vous faites partie de cette moyenne justement qui gaspille, hein, qui jette, c'est l'équivalent de 67 euros d'aliments chaque mois, ou 81 euros, c'est beaucoup, c'est 35 Français qui jettent régulièrement des aliments dont ils n'ont pas besoin. Est-ce que vous faites partie, comme Jean-Pierre, vous recyclez et vous ne gaspillez pas du tout? Je vous attends au 01 53 48 3000. On marque juste cette courte pause, histoire de vous retrouver au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Alors qu'on entendait, on écoutait Idir qui vous accompagnait justement, vous attendons au 01 53 48 3000. Venez participer à ce débat, on a besoin de votre point de vue. Venez aussi également livrer votre message. Nassera qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Nassera, bonsoir, bonjour.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue ma chère Nassera. Vous nous appelez de quelle ville?
J'appelle de la Cambrie.
Eh bien, on vous écoute. Est-ce que vous faites partie de cette moyenne qui jette l'équivalent de 67 euros, alors, voire 80 euros?
Alors là, pas du tout.
Pas du tout.
Pas d'accord du tout. Non, non. Moi, je recycle tout et je ne jette rien. Franchement, je ne jette absolument rien. La vie est tellement difficile que je ne jette absolument rien.
Vous jetez absolument rien, pourquoi? Parce que vous faites attention, vous faites comme Jean-Pierre, vous êtes prudente. Ou est-ce que ou également, Nassera, est-ce qu'il vous est arrivé de recycler?
Ça dépend ce que vous appelez recycler.
Bah, par exemple, Jean-Pierre Colombiès, lui, il recyclait le pain.
Non, moi, j'achète pas beaucoup de pain, j'achète une baguette, on n'est pas très nombreux. Et on s'arrange à manger la moitié ou toute la baguette. Et sinon, le lendemain, bien sûr, on mange le reste. Hein. Donc, je ne donne rien.
Mais vous êtes vous faites très attention, Nassera. Elle a eu un problème de connexion. Bref, ce n'est pas grave. On va retrouver le Quoi de Neuf dans une minute à peine. Je vais accueillir, avant de retrouver le Quoi de Neuf, Pascal Boniface. Gamal Abina, bonjour, mon cher Gamal Abina.
Bonjour, vous allez bien?
On va ouvrir votre micro. Tout va bien?
Très bien, comme d'habitude.
Ça va?
Impeccable, il fait encore bon.
Il fait encore bon, c'est vrai. C'est vrai, absolument, profitons-en. Jean-Pierre Colombiès, ça va, tout va bien?
Tout va bien, tout va bien.
Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police, aujourd'hui il est auteur et il prépare une toute nouvelle pièce. Vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est une toute nouvelle. Pour une fois, c'est à la différence de l'année dernière où c'était une dramatique. Là, c'est une comédie, donc ça va rafraîchir un peu les neurones et ça va donner de la bonne humeur et du sourire. On en a tellement bien besoin. Donc voilà, une nouvelle année théâtrale qui va s'annoncer. Et pour tout le monde aussi,
petite
parenthèse, n'a plus pour les théâtres. Il faut savoir que 40% des spectateurs ne sont pas retournés dans les théâtres. Il y a un déficit considérable à ce niveau-là. Donc j'invite tout le monde à retourner dans les salles de théâtre, à dégoter les meilleurs plans pour y aller. Les théâtres ont besoin de tout le monde, donc n'hésitez pas à y retourner. 40% de spectateurs en moins, c'est considérable.
Exactement. Merci pour cette information. On aura l'occasion de revenir là-dessus, effectivement. Gamal Abina, vous êtes notamment acteur associatif, porte-parole de plusieurs associations, et notamment, vous commentez l'actualité. Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci aussi à vous. 01 53 48 3000. Je vous attends au standard pour parler à la fois d'assurance chômage, des indemnités, des indemnisations, notamment, vous le savez, si vous êtes chômeur, comment vous en sortez. Compliqué quand même, hein, quand on parle de l'assurance chômage, notamment à cette nouvelle réforme qui arrive, le plein emploi. Compliqué, hein, quand même, parce que les chômeurs, est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils le comprennent?
Le plein emploi, ça reste un mythe, hein, aujourd'hui, hein, parce qu'on se pose la question.
C'est surtout la façon dont on en parle qui pose problème.
Ils sont aussi criminalisés, il y a vraiment un rapport à ces médecins.
Là, c'est particulièrement pénible à entendre. Ouais, comme tout système, il y a des dérives. Hein. On sait très bien qu'il y a des gens qui usent et abusent des systèmes d'assistance et de soutien, de prise en charge. Mais jeter le bébé avec l'eau du bain, puis surtout avec cette façon de stigmatiser les gens qui ont perdu leur emploi, je trouve ça très malsain, une fois de plus. On a du mal à sortir de cette rhétorique très particulière qu'a adopté le gouvernement depuis plusieurs années, depuis le début du quinquennat Macron, faut le dire, et qui en fait n'a qu'un but, c'est de créer des tensions. On n'a vraiment pas besoin de ça.
Puis il y a des choses dont il faut parler, hein, je veux dire. Les gens qui sont les chômeurs longue durée, par exemple, sont des gens qui se sentent dégradés, qui vivent mal avec leur famille, qui sont dégradés par rapport à leur femme, souvent, ou le contraire, leur concubin ou autre. Et surtout, c'est que c'est un drame permanent de personnes qui se sentent inutiles. Quand vous voulez le matin et vous allez nulle part, c'est
absolument dur. On continue d'en parler au 0153483000. N'hésitez pas à nous appeler pour parler de l'assurance chômage, de l'indemnisation. Justement, est-ce que vous risquez vous-même d'être confronté à quelque chose qui va vous mettre en difficulté? On parle aussi du gaspillage, le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il vous arrive donc de gaspiller, ou est-ce que vous faites partie de cette moyenne des Français? On parle de 35% des Français qui jettent régulièrement des aliments dont ils n'ont plus besoin. Ça, attention, ça interroge, parce que on parle quand même de 67 euros, voire 80 euros. Pour l'heure, il est 18h32, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et j'accueillerai donc tous nos auditeurs au 0153483000. Bonsoir, mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir, Adil.
Plaisir de vous retrouver tous les jeudis avec le Quoi de Neuf, votre billet d'humeur. Et vous avez décidé de consacrer le billet d'humeur justement autour de la guerre en Ukraine. On vous écoute.
Oui, guerre en Ukraine qui continue et qui malheureusement risque de continuer très longtemps. On en a déjà parlé la semaine dernière sur ce thème. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est deux choses relativement importantes. C'est tout d'abord à Vladivostok. Poutine a réuni, alors pas beaucoup de chefs d'État de gouvernement, mais quelques-uns, et l'objectif, c'était un plan de développement de l'Asie orientale, du territoire russe, mais surtout, il voulait montrer qu'il n'était pas isolé. Alors, il n'y avait pas grand monde, mais quand même, en visio, Narendra Modi, le premier ministre indien, et sur place, le numéro 3 du régime chinois, pour montrer que tout se passe bien entre la Chine et la Russie. Et puis, quand même, deux, trois tours. Et donc, l'idée, c'est de montrer que la Russie n'est pas isolée, et Poutine a eu un discours très offensif pour dire que la Russie n'est pas isolée. Alors, il y a bien sûr beaucoup de propagande, il a rejeté la responsabilité de l'agression sur les Occidentaux, c'est quand même bien la Russie qui a attaqué l'Ukraine et pas l'inverse, donc il déforme la réalité. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même une réalité. Le premier, c'est qu'il y a eu un gros contrat qui a été passé entre Gazprom et les Chinois pour que les Chinois payent en roubles et en yuan le gaz qui viendra de Russie. Donc, Poutine comporte le dollar comme monnaie internationale. Et puis, il va acheter des armes à la Corée du Nord. Donc, ça a bien aidé la Corée du Nord qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais la Corée du Nord est sous sanctions, pas des sanctions occidentales, des sanctions de l'ONU. Donc, Poutine vient un peu, finalement, rompre une sorte de blocus de fait qu'il y avait à l'égard de la Corée du Nord, ce qui n'est pas vraiment tout à fait normal et admissible. Mais en tous les cas, au-delà de cette propagande, il y a quand même quelque chose qu'il faut que les autres comprennent, c'est que l'Occident est uni à soutenir l'Ukraine, mais par contre, eh bien, les autres pays ne veulent pas choisir et ne veulent pas sanctionner la Russie. Donc c'est un peu the West versus the rest, l'Occident contre les autres. Et là, il y a quelque chose qui doit faire réfléchir les Occidentaux. Pourquoi le monde non occidental ne veut pas suivre l'Occident dans les sanctions contre la Russie? Eh ben, il y a un peu de ressentiment quand même par rapport au passé. Et puis surtout, et également une volonté d'autonomie. Ces pays veulent affirmer haut et fort qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils ne se rallient pas de façon automatique aux décisions occidentales.
Et si j'ai bien compris, Pascal Boniface, on est en train de redessiner la nouvelle géopolitique mondiale.
Exactement. Il y a effectivement, il y a les Occidentaux qui sont très unis, très forts, mais ils n'arrivent plus à commander aux autres. Ils n'arrivent plus à se faire suivre, et y compris des pays d'ailleurs qui sont très proches des Occidentaux. Ils disent non, nous on fait ce que l'on veut, on ne vous suit pas de façon automatique, nous ne sommes pas vos clients, nous ne sommes pas vos subordonnés.
Merci pour cette analyse. Merci mon cher Pascal Boniface, le fondateur directeur de l'ERIS. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec plaisir.
Avec plaisir partagé. On marque la pause pub et on se retrouve avec vous pour le face-à-face. Mais également, les auditeurs au 0153483000, Jamel du 78 et Zinedine de Bondy. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h41, précisément, sur Les Informés, dans Les Informés, sur Beurre FM. Nous sommes avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de police. Aujourd'hui, il est auteur. Il prépare une pièce, évidemment, qui va faire parler d'elle très prochainement. Donc vous irez la voir vraiment. Donc on en parlera sur l'antenne. Gamal Abina, qui lui est un acteur associatif mais également aussi politique, il est avec nous. Le 01 53 48 3000, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Jingle, les auditeurs ont la parole.
J'aurais préféré que la précédente ait du succès.
Je vous donne la parole.
Jamel, bonjour Jamel. Jamel, bonjour.
Et notamment à Gamal, avec qui je parle de temps en temps sur notre radio.
Oui. Bienvenue, voilà. Vous nous appelez de quelle ville, Jamal?
Moi, je vous appelle de... Alors, je suis originaire de Vers-sur-Oise et de Chanteloup-les-Vignes.
Bienvenue, on vous écoute, mon cher Jamal.
Merci bien. Alors moi, c'était pour parler un petit peu de l'assurance chômage et de sa réforme.
Oui.
Comme on sait, ce sont des chantiers qui perdurent depuis des septennats et des quinquennats. Malheureusement, je pense plus que, en fait, les réformes qui sont faites ne sont pas forcément les meilleures, ni même les moins pires. C'est qu'on arrive à des choses aberrantes de la part des gouvernants, pour les, et à la fois pour les demandeurs d'emploi comme pour ceux qui les suivent et tous les acteurs sociaux autour. Parce que on travaille avec différentes actions, sur différentes actions avec différents partenaires, notamment sur l'insertion professionnelle, l'insertion tout court. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se retrouve à chaque fois à faire des choses, des prix, ça devient juste. Je pense qu'on oublie, qu'il y a un humain derrière. On a déjà fragilisé les plus pauvres qui touchaient. Allez, je donne un exemple. La personne qui avait un emploi qui n'était pas régulier, qui touchait aux alentours de 900 euros, avec la précédente réforme, touche actuellement 600 euros. Putain. La dégressivité, elle, c'est pour une certaine partie de la population qui n'est pas la plus touchée par la pauvreté. Là, ça, il faut le dire. Et c'est surtout qu'on se retrouve avec des mesures qui n'ont ni queue ni tête. Nous, on a un aspect statistique aussi. C'est vrai. On a un nombre de demandeurs d'emploi qui évolue. Et on nous demande aussi de faire des actions pour que les statistiques bougent. Mais on traite de l'humain. Et je pense qu'on ne met plus l'humain au plein milieu. Donc on va stigmatiser certains demandeurs d'emploi, et maintenant il y a aussi certains demandeurs d'emploi qui se contentent aussi de leur minimum. Je prends l'exemple de personnes, moi je l'ai eu, hein, je ne citerai pas de nom ou quoi que ce soit, mais quand vous avez des personnes qui vous disent « Moi de toute façon, je touche mon RSA ou mon ASS, ça me va très bien, je ne vois pas pourquoi j'irai travailler. » Donc je pense qu'il y a des choses plus urgentes à traiter que de faire des réformes sur réformes sur réformes. Et penser un petit peu sur l'idée du capital, en fait.
Vous avez raison, parce qu'on a tendance à l'oublier, effectivement. Notamment ceux qui sont les plus démunis. Merci, Jamel, de votre intervention.
De rien. Merci à vous.
Au plaisir. Au revoir. Tiens, avant de retrouver Gamal Abina et puis Jean-Pierre Colombiès, on va aller direction Bondy. Bonjour de Zinedine.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue mon cher Zinedine.
Ouais, félicitations pour votre émission, je l'écoute tout le temps. Du
Merci,
du retour,
ça fait plaisir.
Et c'est toujours enrichissant, on apprend beaucoup de choses. Je voulais intervenir sur le gâchis. En fait, moi, quand je regarde, ce que vous avez annoncé au niveau des sommes, ça me paraît exorbitant. Alors, je ne sais pas si c'est particulier.
C'est une étude. C'est une étude. Elle est sortie ce matin. Hein. C'est une étude à l'appui avec évidemment un sondage. Sérieux, donc,
met les restaurants et tout, bon, pourquoi pas. Maintenant, si on regarde que les particuliers. Alors moi, ce que je donnerais déjà comme conseil, c'est que d'aller faire les courses après manger, parce que souvent on a faim et puis on achète souvent un peu plus que ce qu'on va consommer. Éviter tout ce qui est, alors je citerai pas de nom, mais des discounts où on achète des trucs en gros et à des dates vraiment limites. Mmh. Et c'est pour ça que après derrière, quand on cumule le tout, ben ça périme rapidement. Éviter aussi certains. Moi personnellement, j'achète plus sur les marchés. Parce que ça me dure en deux jours, c'est pourri, c'est poubelle. Mmh. Donc, des fois, on met un peu plus le prix, on achète juste pour deux, trois jours, voire la semaine, mais vraiment le maxi. Et on évite du gâchis, quoi. Et c'est vrai que ça peut aller très vite. Notamment quand on voit plus gros que son ventre, quand on a faim, on fait à manger pour cinq personnes.
Oui.
Il faut bien doser, quoi. Ou voir doser pour un repas le lendemain pour les personnes qui rentrent à midi. Mais diminuer la taille des assiettes. Donc ça évite aussi le gâchis, parce que souvent on remplit une assiette et on n'a pas faim, vraiment faim, on n'arrive pas à le finir et ça passe à la poubelle.
Vous avez bien raison de le rappeler, effectivement. Prudence, il faut réduire, évidemment, et faire attention et être prudent dans son quotidien. Surtout quand on parle de crise. Surtout quand on parle de crise en ce moment.
Ouais, alors, moi, ce que je sais, c'est que, moi, par rapport à ma famille, nous, on achète régulièrement au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'à un moment, surtout le pain. Hein. Le pain, on peut le recycler en pain perdu. Il y a des idées. On peut même faire des plats avec à base de pain. Mais c'est vrai que souvent, on voit plus gros que son ventre qu'on a faim. On fait des courses à 11h30 le week-end, alors que bon, c'est bientôt l'heure du déjeuner, quoi. Mmh. Donc, faut éviter. Il y a des petites astuces déjà pour éviter d'aller à la surconsommation. Notamment, on est attiré par des promos. Des grands groupes, hein. Eux, le but, c'est de nous faire consommer. Et souvent, c'est des produits qui sont à la date limite. Donc, vaut mieux acheter petit à petit au fur et à mesure et faire les courses pas la semaine, mais pour 2-3 jours, quoi.
Merci Zinedine. Qu'est-ce que vous voulez dire,
continuation.
Merci et merci de votre fidélité. Jean-Pierre. Attendez, on va juste ouvrir votre micro.
Pardon. Oui, pour compléter le propos qui est très intéressant, hein, il faut pas oublier qu'il y a une problématique aussi de proximité des lieux de course. Il a raison, il faut calibrer ses courses, mais encore faut-il que les lieux où on puisse faire ses courses et avoir un choix le plus large possible, on soit pas très éloigné de ces grandes ou petites ou moyennes surfaces. Quand on a que des petits commerçants en bas de chez soi, c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus cher. Donc on va dans les grandes surfaces et là on fait le plein pour la semaine. Et c'est là où on peut effectivement tomber dans le piège, comme il l'a indiqué, le piège des promos, des contre-promos, et on remplit peut-être exagérément le caddie.
On va marquer la dernière pause, enfin là l'autre pause pub, et on se retrouve tout de suite après, là dans une poignée de minutes avec Jean-Pierre Colombiès, Gamal Abina, et on va entamer les sujets. Non, il nous reste encore une minute, mais tiens, on va entamer le sujet, celui du Conseil de la Refondation. Il était attendu, on l'a attendu et il est contesté. Gamal Abina.
Juste pour dire par rapport à l'auditeur, quand même, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il a dit, parce qu'il dit ça pourrit vite, mais le problème c'est que vaut mieux prendre des aliments qui pourrissent vite que les conservateurs. Donc ça l'invitera aussi à réfléchir.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Donc c'était la question par rapport à cette fameuse.
Au conseil. Le fameux conseil.
Ouais, bon, je me rappelle, le Conseil national de la résistance, il a changé un mot. Bon. En substance, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il ne prend pas le risque qu'il aurait dû prendre, à savoir de rendre quasiment automatique sur les questions centrales cette fameuse consultation populaire qu'on appelle référendum. Le référendum a été utilisé deux fois quasiment dans la République française, deux fois.
Trahi.
La première fois, c'était honnête, hein, de la part de De Gaulle. Il a fait son travail, il a été déjugé et il a démissionné à la suite de ça, et c'est un homme honnête là-dessus. Après, la seconde fois, c'était une trahison, effectivement, c'est de le rappeler, parce qu'on a demandé aux Français s'ils voulaient rentrer dans ce qu'on appelait Schengen par la suite, cette espèce de réforme de Maastricht. Mm-hmm. Ça a été trahi parce qu'effectivement, on les a consultés, ils ont dit non, et on leur a mis un oui de force, en passant par quoi ? Par les représentants du peuple, l'Assemblée nationale, ce qui interroge sur la démocratie. Si les représentants du peuple ne disent pas ce que le peuple dit, c'est qu'ils ne sont plus représentants légitimes du peuple. Donc c'est vrai que cette question-là se pose, et M. Macron fait des effets d'annonce assez forts, c'est beau sur le papier, mais dans les faits, d'abord, il y a un tiers des gens qui ne sont pas venus, hein. Il propose une consultation généralisée, en substance, en vérité, il consulte pour la déco, mais il prend déjà la décision. Et je prends un exemple très concret, on en parlera si vous voulez juste après, la question par exemple de l'énergie, où il se vantait en sortant d'Algérie d'avoir un taux de stockage de gaz de 92%, j'ai entendu son discours hier, il me semble, c'est hier qu'il a tenu un discours extrêmement inquiétant, dans lequel il explique qu'il y aura 5 niveaux de pression sur la population si elle consomme de trop. Donc là, on arrive à une sorte de passe énergétique qui va se mettre en place, hein, pour lequel on va se faire taper sur les doigts si on a l'idée de laisser la lumière trop longtemps allumée ou de
prendre. On retombe dans la rhétorique Covid.
Tout à fait.
Avec la menace du bâton.
Et bon, on en parle juste après la pause pub, et on se retrouve tout de suite après avec Gamal Abina, Jean-Pierre Colombiès au 0153 48 3000, également vous qui êtes chez vous, qui nous écoutez, évidemment, et merci de votre fidélité. A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h54, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous si vous nous suivez. Nous sommes avec Gamal Abina et Jean-Pierre Colombiès. Alors, messieurs, nous allons lancer ce sujet qui est le Conseil national de la refondation. N'est-ce pas une coquille vide ? N'est-ce pas tout simplement un mort-né, quelque part ?
Je peux intervenir ?
Oui, ah bah oui, on lance, ça y est, on en parle. On en parle, on installe le sujet.
Alors, je vais te livrer, enfin vous livrer à tous les deux, mon analyse, mon sentiment. Je pense que, malheureusement pour nous, Emmanuel Macron est à la poursuite d'un destin personnel, d'une destinée personnelle. C'est quelqu'un qui, malheureusement pour nous, ne connaît pas les électeurs, ne connaît que très peu les citoyens, n'a jamais été maire, n'a jamais été député.
Vous êtes difficile.
Connaît pas la population. Mais non, c'est une réalité, c'est un constat. Là, je fais qu'un constat. Et il cherche toujours, il court toujours après quelque chose de, et dans ce qu'on entend de sa part, il est à la fois, il a à la fois une rhétorique de vieil homme, de centenaire, et avec un langage particulièrement abscon, en faisant appel à des termes qu'on n'utilise plus depuis le 19e siècle, et en même temps, il est pour moi une forme de post-68art un petit peu attardé, et il considère que ce qu'il y avait avant lui n'existe pas et n'a jamais existé. Je suis désolé, mais son Conseil national de la refondation n'a aucune raison valable d'exister. Nous sommes en France avec un pays qui est structuré pour justement ce type de réflexion. Je pense au Conseil économique et social. Je pense tout simplement à l'Assemblée nationale quand même. Je pense aux syndicats.
Il y a le CESE, vous oubliez le CESE, le Conseil économique, forum et social.
Oui, mais c'est à peu près la même chose.
C'est à peu près la même chose, mais pourquoi ne pas justement s'appuyer sur le CESE?
Adil, il y a l'Assemblée des maires, les maires de France, qui sont aussi un outil de concertation. Donc faire croire à la population, à l'opinion publique, c'est de réunir un nouveau machin à sa façon, à sa main. Je suis désolé, je vais même plus loin. Même très loin. Enfin non, pas très loin. D'ailleurs, c'est juste un constat. Je pense que ce monsieur a un problème avec la démocratie et que son mode de fonctionnement...
Il va loin. Il pousse le...
Oui, mais Adil, on a les conseils de défense. On a eu les conseils sur la santé. Tout ça se réglait en catimini dans des groupes de réflexion qui étaient à sa main, sous son autorité et sans aucune publication de ses conclusions ni de ses travaux. C'est gravissime. Et aujourd'hui, il a la prétention de refonder la société. On ne sait même pas dans quel but, du reste. Hein. Est-ce que vous savez dans quel but il veut ? On a une petite idée. Oui,
il n'a pas une grande majorité.
Là, je joue au faux naïf, là. Mais il a une arrière-pensée qui, moi, me fait peur. Ça signifie tout simplement que, quel que soit le résultat de la consultation populaire, je m'en fiche. Moi, je crée mon propre outil de réflexion. Et avec des gens qui vont venir, qui vont s'agréger là, ce sera la même chose
que... Ça balance ce que vous dites, parce que je vais lâcher le mot. Oui. En gros, vous êtes en train de nous dire que Emmanuel Macron méprise.
Oui, on peut le dire.
Mais c'est grave.
C'est peut-être grave, mais c'est une réalité que j'assume. Rappelez-vous, le grand débat, ça a débouché sur quoi ? Zéro. Les grandes réunions sur l'écologie, ça a donné quoi ? Zéro. Le Beauvau de la sécurité, on en a assez parlé, je suis venu ici m'en exprimer. Il nous a tout simplement fait un inventaire à la Prévert de ce qu'il y avait dans le magasin, de ce qui était en stock. Aucune perspective sur le phénomène, le problème, la problématique sécuritaire de ce pays, qui est gravissime. Il n'y a pas de philosophie sécuritaire. On a eu les assises de la justice. Ça fait doucement rigoler. Enfin, ça les fait rire. Jaune, toutes les associations de magistrats, ça leur fait peur. Et on arrive à la fameuse réforme de la police judiciaire, qui n'est que l'avatar des réflexions qui sont trentenaires, pour ainsi dire, qui n'ont qu'un seul but, c'est pulvériser le judiciaire dans ce pays. Donc tout ça démontre, les uns après les autres, que le macronisme, c'est la destruction petit à petit de ce qui a précédé Emmanuel Macron, sans perspective d'avenir. Donc je confirme, pour moi, ce CNR, c'est du vent.
C'est du vent. Bon, il va loin quand même, Jean-Pierre Colombier.
Ouais, mais bon, il est dans son rôle. J'ai envie de dire une chose. Bon, là, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi.
Il est dans son rôle. Il vient de brosser un constat terrible.
Oui, mais
j'aime bien.
Je dis dans son rôle parce qu'il est pas pro Macron. On l'entend bien. Ça paraît.
Bah, ça, on l'aura compris.
Voilà. Donc, je suis pas pro gauche non plus. Et ça, on peut en discuter.
Non, je suis pas
de
gauche. Macron n'est pas de gauche.
Non, mais j'ai autant de griefs sur cette personnalité. Je suis pas une fixette sur lui.
Non, hein. Non, pas du tout.
Les autres sont pas au pouvoir, c'est la seule différence.
En politique, il y a beaucoup de choses. Tu m'avais parlé de Sarkozy pour lequel tu n'avais pas d'amour particulier.
Ah, ça, c'est clair.
Mais alors, en substance, c'est Macron qui était aux commandes. Donc là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur un point essentiel. Et c'est pas un terme disqualifiant. Et je suis vraiment pas du tout d'accord le fait qu'il ait pas été élu.
Parce que j'ai pas dit qu'il n'a pas été élu.
Non.
Élu de terrain.
Oui, c'est ce que je veux dire. Élu terrain.
Oui.
Avant d'arriver à la tête de l'État, il n'était pas élu du terrain, donc il connaît pas le peuple. Ça, c'est pas valable. Parce que sinon, on part du principe que De Gaulle n'a pas été élu terrain et pourtant il était un bon président. Donc l'argument n'est pas valable.
C'est pas
une question de dire aujourd'hui, on sort d'une guerre à l'époque, il revient à nouveau parce qu'il y a une guerre, on est d'accord. Mais il n'en demeure pas moins. Qu'en tant que chef de l'État, il y avait une vision chez lui qui existait avec des compétences qu'il
a. Comparer De Gaulle à Emmanuel Macron quand même.
Non, je ne comprends pas. Je dis juste qu'en termes d'élection, il n'est pas élu non plus. Donc ça veut dire que ce n'est pas disqualifiant. Il ne faut pas nécessairement connaître le peuple de près pour avoir une vision de la France qui soit bonne. En revanche, là où je te rejoins, c'est que Emmanuel Macron a un défaut. Il est l'homme de sa génération. C'est l'homme TikTok, c'est l'homme Twitter, c'est l'homme qui a besoin de faire des effets d'annonce, de faire de la mise en scène. Il le fait très bien d'ailleurs. Hein. C'est un type qui est très très bon et qui dit toujours avec la même méthode très réfléchie, parce que c'est quelqu'un qui a parfaitement compris le principe de la communication que Schopenhauer avait dit, l'art d'avoir toujours raison, c'est de dire toujours à la personne, soit argument d'autorité, lui c'est un génie, donc vous n'avez rien à dire, ou soit, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous expliquer que vous n'êtes pas vraiment dans la bonne voie. Donc il dit toujours à tout le monde, mais je comprends, je suis d'accord, je vous comprends. Ça, c'est cette fausse acceptation pour in fine imposer sa vision des choses. Et donc aujourd'hui, quand Macron, je prends un exemple très concret, hein, vraiment le truc évident, la crise énergétique, qui n'est pas une crise, mais qui est une guerre provoquée contre la Russie économique, donc c'est pas une crise, hein. On n'a pas de problème énergétique. Cette crise énergétique est la conséquence d'un choix politique, d'une prise de participation en faveur de l'Ukraine contre les Russes. C'est ça, ce qu'ils appellent une crise. Donc c'est pas une crise énergétique. Il va en Algérie, il dit on a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème à la maison. Je viens pas en Algérie pour le gaz ni pour le pétrole, je viens pour la décoration, un peu de cinéma, un petit peu de culture et des matchs de foot. Ça, c'était de l'esbrouf. Il arrive en France, il voit qu'il a obtenu que 50% d'augmentation sur ce que l'Algérie lui propose comme gaz. L'Algérie comme gaz, ouais. Fournissait 8%, elle est passée à 12%. 50% de 8%, c'est 4%. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive ici, il se rend compte qu'il n'a pas les moyens de trouver la solution qu'il avait espérée en Algérie ou au Qatar, il a aussi été au Qatar, n'oublions pas, et que ça coûtera cher quoi qu'il arrive. Et bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit aux Français, vous aurez moins d'énergie. Et pourquoi moins d'énergie ? Et c'est là où ça devient intéressant. Très rapidement, c'est parce que le gaz est indexé sur l'énergie électrique. Le coût du gaz a explosé et donc mécaniquement, alors que c'est pas normal, c'est parce qu'il y a un accord européen pour ça, mécaniquement, ce qui est produit par les centrales nucléaires, qui a toujours le même coût, ça coûte pas plus cher en production, sera vendu largement plus cher
à cause de l'augmentation du prix du gaz.
Qui est extra. Et à l'époque, on indexait le gaz sur le pétrole. Donc aujourd'hui, on est dans un système où il pourrait déconnecter cette indexation, mais il ne le fait pas politiquement parce qu'il ne peut pas trahir l'Europe. Donc Macron, qui est un européocentrisme à fond, refuse de faire cela et met sa population sous pression, la prise en otage, absolument parce qu'il ne fait pas le bon choix politique. Et aujourd'hui, si M. Macron faisait un bon choix, il dirait bon, on a une situation exceptionnelle, grave, de crise que nous avons provoquée, parce qu'ils l'ont provoquée de fait. Les Russes ont attaqué les Ukrainiens, ils sont responsables, mais les Français n'étaient pas obligés de se mettre du côté ukrainien. Donc il y a une provocation, une prise de participation à la guerre. À partir de là, on prend nos responsabilités, on ne peut pas respecter les accords européens. On est obligé de s'en détacher, il ne le fait pas.
Donc on peut parler de boycott, d'absence, de réserve, quand on vous écoute, vous deux, effectivement, finalement, mort-né.
Aucun intérêt de toute façon. Non, mais oui, il n'y avait aucun intérêt à lancer ce machin, c'est clair.
Et sur le papier, c'est beau, hein. Quand vous lisez ce
que vous proposez, c'est reste, formidable. Hein. Mais comme
le fait de proposer le référendum du bout des lèvres, c'est du bout des lèvres. Si on se met d'accord avec Paul, Ursula et Jacques et Guignol, eh bien, on fera peut-être un référendum. Vous imaginez un peu, on est loin du référendum.
Adili, il échappera à personne quand même qu'on est dans l'époque, dans l'ère de la polémique pour ne rien dire. Je veux dire, un simple effet, on va venir vite fait sur ça. Le pauvre Galtier, qui a eu le malheur de parler des chars à voile, et on a lancé la polémique sur le retour en train plutôt qu'en avion.
Ah, j'ai raté ça, c'est quoi ça?
Ah non, mais c'est à mourir de rire. Non, mais dans le même temps.
T'as pas suivi le PSG?
L'entraîneur,
on va pas revenir.
Très rapidement, l'entraîneur de PSG s'est vu reprocher.
Christophe Galtier.
Voilà, Christophe Galtier, d'avoir fait revenir son équipe de Nantes en avion. Et le directeur.
Jet privé.
Attends, j'ai pas fini. Et le directeur de la SNCF.
En pleine crise d'énergie.
Voilà, lui a dit vous auriez pu revenir en train, c'était moins coûteux pour la
police. C'est moins pollué. Voilà.
Et lui a répondu ah ben la prochaine fois, on reviendra en char à voile. Tollé général. Tollé général. Moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Pourquoi ? Mais parce que dans le même temps, on reprochait à cet homme et ses 11 joueurs de revenir en avion, il y avait un grand prix de Formule 1 dans le monde. Et ça consomme combien un produit de Formule 1 ? Combien ? Et tous les championnats de moto et de Formule 2, 3 qui existent, ça consomme énormément. Non, on va emmerder une équipe de foot parce qu'elle revient. Non, mais on nage en plein délire. Et le problème, c'est que toutes ces mini-polémiques empêchent l'évocation des grands sujets, des sujets de demain qui, eux, posent problème. Comme tu l'as dit fort justement, les négociations indispensables entre l'Ukraine et la Russie, qui ne se font pas, qui sont au point mort, parce qu'on accepte et on boit les paroles d'un Zelensky qui était hautement contestable déjà au moment de son élection et qui est une personnalité totalement fracturante. Ce type ne devait pas être là où il est. L'Ukraine a bien des torts aussi au niveau de la Russie. On oublie de le dire trop souvent. Et il faut arrêter, il faut négocier, point barre. Mais quand tu t'intéresses, moi je me souviens d'avoir lu un bouquin excellent dont je fais la promo, qui s'appelle Les Sentinelles, qui était un recueil de mémoires des anciens chefs du Sinn Bet. En Israël. Et à qui on posait la question, est-ce que, alors que c'était des gens qui avaient été très engagés dans la sécurité de leur pays, ils leur disaient à certains, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Est-ce qu'il faut discuter avec les mouvements dits terroristes,
machin, bidule?
Et là, tous ont dit, il faut discuter avec tout le monde. Donc cette histoire de dire, on ne discute pas avec les Russes, avec Poutine, c'est une hérésie absolue.
Qu'il faut rappeler une chose importante, excuse-moi de te couper. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs.
Gamal Abidin.
Beaucoup d'investisseurs heureux, de réaction heureux, qui vous disent la guerre va durer. Dans l'espoir qu'elle dure. C'est pas un vœu.
Ça permet de tester les armes aussi.
Merci. Et de vendre des armes. Donc il dit la guerre va durer. Donc l'Ukraine va être endettée de façon illimitée pour 100 ans quasiment.
Exactement.
La guerre durera parce qu'ils rêvent, et c'est là où c'est gravissime. C'est là où on voit qu'il n'y a plus un sens de la raison et un sens politique et un sens de l'histoire. Parce que la Russie de 2021, en l'occurrence, ça commence en 2021, n'est pas la Russie de 89 avec la chute économique, avec la catastrophe où vous voyez bien que l'Union soviétique commence à s'effondrer, la chute de l'Afghanistan. Parce qu'en 79, quand les Russes envahissent l'Afghanistan, ils sont déjà très faibles économiquement, et ils sont déjà en bout de course. Les Brejnev, les Andropov ont détruit l'économie du pays. Ce pays était faible. Aujourd'hui, la Russie est forte. Elle a de l'argent.
Elle se reconstruit.
Elle peut tenir une guerre pendant 20 ans si elle le veut. Ceux qui s'épuiseront à la guerre, c'est pas les Russes. Ce sont les Ukrainiens, c'est malheureux, qui vont mourir inutilement. Et c'est l'Europe qui va alimenter une guerre inutile, qui a aucune chance de victoire. Aujourd'hui, la seule chose qu'il faille dire, et c'est ce que je vous le disais en off, Adil, ce qu'il faut dire, c'est à monsieur Macron, s'il nous écoute, je l'espère, ou aux auditeurs, qui n'hésite pas à écrire à monsieur Macron, qu'il envoie une bonne fois pour toutes une lettre à monsieur Erdogan, à monsieur Poutine, à monsieur Zelensky, puisque c'est les quatre acteurs qui sont en lice dans la discussion, et éventuellement les Allemands, s'ils veulent bien y aller, à l'exception faite d'Ursula von der Leyen, qu'il envoie une lettre pour dire on va sur la table des négociations, on trouve un terrain d'entente, on revient à minima sur les accords de Minsk, même s'ils ne seront plus les accords de Minsk, on le sait, parce que c'est déjà fini, mais il faut venir sur la table des négociations. Sinon, aujourd'hui, il va faire souffrir inutilement les Ukrainiens.
Tout à fait.
Il va tuer des soldats pour rien, et surtout, l'Europe va souffrir encore plus que jamais.
Bah, elle souffre déjà. Effectivement.
Allez, messieurs, autre sujet, celui qui a retenu notre attention aujourd'hui dans les informés, vous savez, c'est l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui fait son mea culpa aujourd'hui, porte-parole du gouvernement, sur les masques. Mea culpa sur les masques. Alors une partie de l'opinion nous a reproché d'avoir sciemment menti sur les masques, souvenez-vous. Oui, c'était l'un des premiers, d'ailleurs Jean-Pierre Colombiès, je le dis ici, c'était l'un des rares à crier, à s'alarmer sur le fait effectivement il y avait un problème des masques pour cacher la pénurie. Je me rappelle, je dois le reconnaître, mon cher Jean-Pierre Colombiès. Alors aujourd'hui, vous savez ce qu'il dit sur les masques? Nous nous sommes trompés, ni plus ni moins. Il présente ses excuses. Alors Jean-Pierre Colombiès, ça vous fait sourire?
Ça me fait sourire jaune. Et je ne les accepte pas, ces excuses. Tout ça, enfin, à titre personnel, bien humblement.
Vous aviez attiré notre attention ici, hein.
On est bien. Merci de vous en souvenir, très cher Adi.
Bah, je m'en souviens, vous avez tapé sur Sibeth Hendaye.
Ouais, mais pas que.
Et puis sur l'ancien ministre de la Santé.
Et l'ancien directeur général de la santé publique,
exactement.
Jérôme Salomon. Il y en avait pour tout le monde, rappelez-vous. Et surtout, pourquoi? Je le rappelle encore.
Je vous avais même dit à l'époque, soyez prudents sur les mesurés. Je vous avais dit, soyez mesurés sur les propos que vous engagez ici à l'antenne.
Oui, mais j'avais raison.
Ouais, et vous aviez raison.
Et malheureusement, ça s'est fait aussi au préjudice, et ça je l'ai dénoncé partout et pas simplement sur votre antenne, au préjudice des enfants qu'on a maltraités, je persiste et je signe sur ce terme, maltraités dans les écoles. On a masqué des enfants de 5-6 ans, ce qui est, je mesure mes propos, dégueulasse. Voilà. Et donc aujourd'hui, il s'excuse. Eh ben, il faudra aussi qu'il s'explique devant les tribunaux, peut-être aussi un jour.
Il s'excuse de quoi précisément? Il faut préciser quand même de quoi il s'excuse, parce que c'est quand même extraordinaire de ridicule.
Il s'excuse. Il n'en est plus à sa preuve.
Sur la vérité sur les masques, il s'excuse.
Oui,
j'aime bien.
Il y a plusieurs choses pour lesquelles.
Sur la vérité sur les masques.
D'abord, la désindustrialisation française. Donc là, c'est pas de sa faute. Hein, ça pourrait exister. Il faut commencer par ça. On n'avait pas de masques, on était obligé de les voler sur les tarmacs.
Se disputer avec les Américains.
Les Italiens, par exemple, c'était quand même sacré. Ensuite, deuxième chose, excuse pourquoi? Pour avoir imposé, pour avoir d'abord dit au départ que les masques étaient inutiles. Rappelons quand même
Il s'excuse sur ça, sur les masques inutiles.
Oui,
exactement.
Le droit ensuite, sketch, nous avons mis une Sibeth Hendaye qui était très bête pour le coup, qui nous explique, comme si elle était des crétins congénitaux. C'est un jeu de mots de franche, d'accord. À 2 euros. Elle nous explique que c'est des crétins congénitaux. Ah, c'est dur de mettre un masque. Madame a fait des études, donc elle prend vraiment les gens pour les imbéciles. Et surtout, il s'excuse pourquoi? Pour avoir été incapable de protéger une population, comme le reste du monde. D'ailleurs, c'était compliqué. Mais il fallait être honnête. Simplement, il faut dire, on ne sait pas faire des masques parce que ce pays est devenu de plus en plus incapable de fabriquer quoi que ce soit. C'est une vérité. On importe tout de Chine. Grand laboratoire, cette usine du monde, absolument. Et parce que c'est laboratoire, parce que c'est les questions des vaccins qui. Et à côté de ça, il s'excuse pourquoi? Parce qu'ils ont été incapables. On peut pas reprocher à un gouvernement de ne pas avoir su venir ce qui s'est passé. Tout le monde était choqué et je suis persuadé que ces dirigeants, qui étaient en panique, littéral, parce qu'il y a quand même des politiques qui sont morts, on peut l'oublier, ont eu un moment de panique et ont perdu pied. Mais après, quand les scientifiques arrivent pour les conseiller, ils ne les écoutent pas. Et ça, on a maintenant des rapports de ces fameuses commissions qui étaient effectivement ad hoc, qui discutaient entre eux. Hein. On n'était pas concernés, pas de rapport, pas de publication, rien. Et qui nous annoncent ça. Mais il y a deux choses aussi. Il y a eux qui ont eu tort, faut le reconnaître. Et il y a aussi M. Raoult qui a eu tort, parce qu'on l'a oublié celui-là, qui a raconté aussi beaucoup de bêtises de son côté, ce qui a fait que de chaque côté, on racontait n'importe quoi. Et au milieu, il y avait des gens qui étaient en panique et qui auraient cru n'importe qui et n'importe quoi.
très cher ami, vous oubliez quelqu'un dans votre analyse.
Jean-Pierre.
Il y a quelqu'un qui a son poids quand même et qui a une lourde responsabilité dans tout ça. C'est Madame Buzyn.
Bien sûr.
Bonjour, je vous ai dit tout à l'heure l'ancienne ministre de la Santé.
Il a lâché, Agnès Buzyn. Il a abandonné le bateau en pleine crise. D'accord.
Pour aller faire intéressant la ville de Paris.
Et une fois qu'elle eut été battue pour la mairie de Paris, nous a lâché qu'elle était parfaitement au courant,
de tout, bien sûr,
de ce qui se passait et de la dangerosité du virus et qu'il n'a strictement pas dit un mot sur l'éventualité, par exemple, de nous inciter tous en tant que citoyens à nous fabriquer nous-mêmes des masques, par exemple.
Déjà, oui, déjà. Mais Madame Buzyn, pour prendre Madame Buzyn. Parce que ce qui est grave, c'est bien de le rappeler, parce que moi, j'ai écrit et dit à la radio, une radio concurrente, une chronique, une semaine après le premier arrivé d'avion qui venait de Wuhan. J'ai dit, cette femme, et j'ai pesé mes mots en l'occurrence, et ça s'est enregistré, je l'ai rediffusé après. Cette femme, c'est une attitude de criminelle. Comment peut-elle laisser venir, alors que c'est quand même le pays de Pasteur, un avion chargé de malades qui va voler pendant 10-15 heures avec le même air qui va être respiré en France, sachant qu'il y a une épidémie là-bas, ils n'ont même pas mis les gens en quarantaine, le minimum syndical. C'est elle qui est à l'origine de ça, elle a pris des dispositions, elle dit ça n'arrivera pas. Donc elle a menti, alors que c'est une scientifique, c'est pas un imbécile. Son mari est un scientifique, ils sont tous les deux parfaitement au fait des process qui conduisent à une contamination générale et une pandémie au départ. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement ces gens-là sont responsables.
Mais alors la question que je vous pose, c'est
responsable mais coupable.
Ouais. Coupable. Alors justement, dans tout cela, tiens, je voudrais entendre aussi les auditeurs au 01 53 48 3000. Est-ce que comme Jean-Pierre Colombiès, les excuses d'Olivier Véran, vous les acceptez pas ou vous les entendez? Vous dites finalement chacun peut se tromper. Alors dans cette question que je vous pose, vous savez quoi, il y a là, et je vous ai entendu attentivement, Jean-Pierre Colombiès et Gamal Abina. Alors est-ce que c'est réfuter des mensonges ou est-ce que c'est reconnaître des ratés? C'est pas la même chose.
Dans la langue de bois. Moi, je pense qu'il le savait. Il savait très bien qu'il y avait un souci de ravi de stock. Enfin, c'est pour moi qu'il dit. C'est eux qui l'ont reconnu. Enfin, bon, Macron nous a encore fait une macronade dans l'histoire en disant qu'on n'avait jamais été en rupture de stock parce qu'il privilégiait je ne sais trop qui, puisque tout le monde était en pénurie, y compris les services hospitaliers. Donc, je sais pas qui était pas en pénurie, mais lui, il avait l'air de dire que oui. Enfin, bref. Non, moi, ce que j'ai toujours dénoncé, y compris sur cette antenne et pas qu'une fois, le mensonge est inacceptable. Lorsqu'on est face à un stock qui n'est pas suffisant, eh ben on incite les gens à se fabriquer. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Le docteur Peloux, qui n'est pas non plus, on peut pas le taxer de courtisan de quoi que ce soit, avait dit oui, les masques en toile déjà, même s'ils ne protègent pas aussi bien que des masques chirurgicaux, masques artisanaux peuvent déjà créer une barrière intéressante et efficace. Ça n'a pas été fait. Et la plupart des gens, dont je fais partie, se sont fabriqués eux-mêmes leurs masques artisanalement parlant. Voilà, on a fait ça comme ça. Est-ce que ça a servi à quelque chose? J'en fais justement rien. Je suis vivant, donc ça a dû marcher.
Elle était contaminée pendant cette période?
Oui, je l'ai eu lorsque c'était à la mode, 11 jours, à 42 fièvres. Il y a deux ans.
Donc, en 2020, quand c'était la première vague.
Pardon?
La première vague.
Oui, la première vague, oui.
Pas de chance. Donc, moi, je n'ai pas été contaminé à ce moment-là, mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est vrai. Alors, il y a une chose que je ne vais pas non plus faire le procès des gens. Je considère que Mme Buzyn est responsable parce qu'elle savait. Elle savait parfaitement ce qui se passait et elle s'est tue. Elle dit dans Le Monde, donc elle s'est elle-même incriminée. Oui. Je considère sa responsabilité en largement engagée. Elle doit être poursuivie, sachant qu'elle a une place en or aujourd'hui, c'est intolérable. Sachant qu'elle a eu l'outrecuidance de se présenter à la mairie de Paris, ce qui est honteux. Donc Madame Buzyn doit être poursuivie. Je suis beaucoup plus nuancé pour
Vous dites que Madame Buzyn doit être poursuivie.
Oui, absolument. Mais de façon radicale. Quand on sait, on n'a aucune excuse.
Mais pas qu'elle.
Non, mais elle et l'entourage.
J'ai Jérôme Salomon en premier lieu aussi.
On s'entend bien, les deux. Mais ce que, par contre.
L'ancien directeur général.
Bien sûr. Tout à fait. Par contre, je suis plus mesuré sur Véran parce que je pense. Alors, mais j'essaie d'être à décharge un petit peu, que lorsqu'il y a une pandémie et que tout le monde panique de façon généralisée, le monde entier a paniqué jusqu'au premier ministre anglais qui serrait des mains et qui s'est retrouvé avec le Covid, c'est vous dire à quel point ils ont paniqué et ne comprenaient pas ce qui se passait. Eh bien, je pense que cet homme, s'il a menti, et il a menti, il le dit aujourd'hui, l'a fait pour éviter la panique généralisée. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on était incapable de fabriquer un masque. C'est vrai que nous, je travaille dans le textile, on nous a supplié, la région nous a supplié de fabriquer des masques artisanaux. C'est vous dire à quel point on est tombé. Et c'est en cela que je dis, à la limite, ce monsieur Véran, je le jugerais pas la pierre, parce que d'abord il reconnaît son crime, il a menti, et en même temps il y a une légèreté dans son comportement, mais il n'y avait pas de solution à ce moment-là. Donc c'est vrai que la seule solution, et là je te rejoins sur le fait de faire de l'artisanal, même mettre un truc en toile, un chiffon, n'importe quoi, il aurait dû encourager les gens,
bien sûr,
le masque. Là je suis d'accord.
Bien sûr, ça nécessitait juste un peu de courage politique.
Tout à fait.
Monsieur, nous allons marquer, vous savez quoi, la dernière pause pub, et on se retrouve, d'ailleurs si vous voulez réagir, au 01 53 48 3000 sur l'erreur, notamment Olivier Véran qui fait son mea culpa concernant les masques. Si vous voulez intervenir, je vous attends tout de suite, juste après la pub, au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkas.
Dernière ligne droite, chers amis auditeurs, 0153483000, 19h21, avec Jean-Pierre Colombiès, mais également Gamal Abina. Messieurs, avant de passer à ce dernier sujet, j'aimerais juste qu'on, évidemment, on apporte ce dernier élément. Je vous ai posé une question sur le fait que, voilà, est-ce que finalement, on peut parler de mensonge ou de raté ? Gamal.
Simplement, j'expliquais tout à l'heure que je pense qu'ils étaient en panique. Je pense qu'il a utilisé la seule méthode qu'il avait pour éviter le vent de panique, à savoir mentir. Il l'a fait. Je pense qu'il a quand même pris beaucoup de temps pour reconnaître qu'il a menti, ce qui est un peu minable. Il a attendu qu'il y ait une crise nouvelle qui arrive pour pouvoir noyer le poisson. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas le plus à blâmer. Je suis pas en train de défendre parce que j'ai pas trop de sympathie pour le personnage. Mais je pense que ceux qui sont à blâmer, c'est les scientifiques qui étaient au courant dès le départ. On en a parlé, Buzyn, Salomon. Ces gens-là sont à blâmer. Lui, il est politique. On lui a donné une directive qu'il a suivi à la lettre. Ne faites pas paniquer la population. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, sur la question des enfants, tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, il y a des ratés qui sont insupportables. Là-dessus, je te rejoins.
Et je compléterai le propos, si tu me permets, en disant que ça n'était pas... C'est pas tombé du ciel, cette épidémie. Beaucoup de rapports de scientifiques et beaucoup même de rapports de gens qu'on va qualifier bien informés avaient prévenu qu'il y avait potentiellement un risque à un moment donné d'épidémie due effectivement à des virus émergents, tout ça. Donc l'excuse de surprise, moi, elle ne me va pas non plus, on va être clair. De la même façon qu'en 2008, l'excuse de la crise, de la méconnaissance de la crise des subprimes était une surprise, ça n'en était pas une. Faut arrêter aussi de prendre les gens pour des couillons, on est là pour dire la vérité, ça tombe très bien d'avoir une antenne où on peut s'exprimer librement. C'est faux de dire qu'ils ne savaient pas ou qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive. On le savait déjà dès le H1N1 qu'il pouvait y avoir une récidive.
Oui, mais pas de cette ampleur, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça.
Un virus, c'est un virus.
Non, parce qu'il y a plusieurs virus. Il y a le sida, il y a des méthodes de
transmission. Mais sida, c'est pas pareil.
Oui, mais ça reste un virus qui se transmet
par la capote,
par les fluides. Mais dans tous les cas de figure, non, pas pour le sida, mais par contre, n'importe quelle grippe, tu la reçois, tu la transmets.
Justement.
Ce qui se passe, c'est que je pense que là, ce qui est vraiment, il faut pas perdre de vue une chose. Et là où je dirais qu'il y a une spécificité, c'est la vitesse de contagion qui est impressionnante et tous les moyens mis en place n'y ont fait pas grand chose finalement. Bah, les masques, les barrières.
Non, mais à fortiori, parce qu'on n'a pas réassorti les stocks.
Oui,
on aurait tout simplement, ils auraient fait leur job. Je parle même pas des génies, des voyants, des gens qui avaient une prédestination. Non, tout simplement, on aurait réassorti les stocks. Il y aurait pas ce débat.
Et tu crois qu'il y a des stocks, c'était 100 millions, puis après c'était 110 millions, puis après plus.
Oui, puis après tout le monde s'en foutait. Okay. On s'est dit, bon, la H1N1, ça n'a pas eu, finalement, c'était une grippette, c'est passé comme ça. Sauf qu'on n'a pas tenu compte des avertissements des spécialistes, dont je ne fais pas partie.
Ou des Chinois qu'on a pris de haut.
Voilà, qui dit, attention, il y a potentiellement, à un moment donné, le risque d'une pandémie incontrôlable, incontrôlée et assez violente. C'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'a
comme disent certains, c'est passé crème.
Voilà.
C'est
passé crème. Et on n'a pas réajusté les stocks. Et voilà.
Moi, je pense que là où c'est criminel, c'est que le racisme. Là, on parle de racisme. Anti-chinois, on les a pris pour les imbéciles. Ils n'ont même pas mesuré qu'un pays qui ferme un territoire avec 60 millions d'individus et qui le ferme entièrement, c'est que vraiment ils paniquaient. Et là, en substance, on les a pris de haut.
Messieurs, dernier sujet, s'il vous plaît. Avant de rendre l'antenne pour la première fois depuis sa création il y a 30 ans, l'indice de développement humain qui prend en compte, vous savez quoi, l'espérance de vie. Et on parle d'éducation au niveau de vie. Et elle a reculé, sachez-le, messieurs, deux années de suite, en 2020, 2021. Conséquence, eh bien, l'ONU, le monde est revenu 5 ans en arrière en matière de développement humain. Peut-on, évidemment, s'inquiéter ?
Mais oui. Ça s'explique surtout. Ça s'explique, et ça n'a rien à voir avec le Covid.
Espérance de vie qui ne cesse de baisser.
Oui, mais pour des raisons simples, d'un bon point de vue. C'est tout simplement parce qu'on démultiplie la malbouffe. On n'a jamais aussi mal mangé que notre époque actuelle.
Merci de le rappeler.
Mais c'est intéressant quand même.
Oui,
parce que
c'est vrai.
Qu'est-ce qui a tué beaucoup aux États-Unis, notamment pour le Covid, qui est lié avec tout ça ? C'est quoi ? C'est le fait que la moitié de la population est obèse, tout simplement. Donc le virus s'est régalé là-dedans. Il est arrivé.
Un accélérateur.
Mais bien sûr. Donc de fait, on a eu des générations d'individus mal nourris, pas nécessairement peu nourris, mais surtout très mal nourris. On va faire simple, on va dire la malbouffe. Donc de fait, oui, effectivement, les morts, je dirais, par accident cardiovasculaire, diabète et j'en passais des meilleurs, sont liés à ça. Donc c'est pas surprenant du tout. Et nous aussi, on n'est pas épargnés éventuellement par ce phénomène, parce que ça rejoint d'ailleurs le problème que tu as évoqué au début de l'émission.
Le
gaspillage. Donc il faut s'alerter de tout ça.
Je suis pas tout à fait d'accord sur un point.
Deux fois que t'es pas d'accord.
Quand je vous écoute, on dirait le monde est en déclin.
Non, non, je ne suis pas déclinisé du tout non plus. Non, moi, je ne crois pas au déclinisme.
Un petit peu en décadence dans certains parties
de la
planète. Non,
il y a des excès. Pas du déclin, il y a des excès. Mm-hmm. Là, quand tu fais référence au fait qu'il y a de la malbouffe aux États-Unis, qu'on trouve ça un peu partout dans les pays occidentaux, hein, c'est des pays riches. Donc, ça représente un peu.
Moi, je dirais que ça révèle des inégalités mondiales, tout simplement.
Merci. Ça, aussi. C'est des pays riches. Mais par contre, là, c'est un rapport qui parle du monde entier. Le recul, il est consécutif à plusieurs éléments. Le caractère malbouffe, c'est juste un truc qui a été visible avec le Covid, mais c'est pas grand chose. Ce qui est vraiment évident, c'est que l'indice de développement humain, c'est quoi? C'est éducation, d'accord? C'est santé. Santé. C'est niveau de vie. C'est revenu. C'est des choses comme ça qu'on prend en considération. C'est un panier d'éléments comme ça qu'on calibre. Et on se rend compte que ça a reculé. Pourquoi? Parce que le Covid, effectivement, il y a eu 2 mois d'arrêt total d'économie.
Mais elle a créé un fossé.
A créé un fossé et a accéléré les inégalités. Et on peut s'en rendre compte.
Absolument.
Les plus riches sont devenus encore plus riches et les plus pauvres, plus pauvres. Donc c'est ça qui fait qu'on a reculé.
En gros, la pandémie, elle a révélé les inégalités.
L'accélérateur.
Une rupture, parce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme l'énergie. On se rend compte que le monde a une quantité finie d'énergie et qu'on ne peut pas aller au-delà. Et bien là, c'est pareil. La richesse est finie, mais la richesse, c'est déséquilibré en faveur des plus riches et les plus pauvres qui n'y ont plus accès ont reculé. Donc quand vous n'avez pas l'argent pour envoyer votre enfant à l'école, bah forcément, la dizaine.
Et pour l'accès à la santé. L'accès à la santé n'est pas quelque chose d'universel. Il faut que les Français, notamment, aient bien conscience que notre système de santé est unique et qu'il s'appauvrit justement. Il est en train de se clochardiser, notre système de santé. Mais il a le mérite d'exister.
Clochardiser. Oui, j'aimais les expressions de Jean-Pierre. Vous avez dit quoi sur Macron tout à l'heure? Il se mat.
Macronise, c'est ça?
Non, la macronade, et maintenant il se clochardise.
Macron nous fait des macronades. Il parle, il parle, il parle.
C'est en concert, macronade.
Derrière, pas de fin. Non, mais pour être plus sérieux, il y a un accès à la santé qui est exceptionnel en France et dans la plupart des pays occidentaux. Mais par ailleurs, c'est loin d'être le cas. Et surtout la France. Mais par ailleurs, c'est loin d'être le cas. On pourrait parler de l'Inde, de la Chine. Il n'y a pas du tout ça. C'est incomparable.
La privatisation de la santé, c'est ce qu'il y a de pire pour les peuples. Parce que, je le répète régulièrement, là, par contre, petite phrase sympathique, la vie n'est pas rentable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus on vieillit, plus on coûte. Et moins on rapporte. On est moins productif parce qu'on est vieux, on fatigue et on coûte de plus en plus cher à la société. Sauf que la vie, ça n'est pas un concept de rentabilité. C'est un concept d'humanité. On doit être humain avec les plus faibles, donc protéger les vieux, tout simplement.
Merci, messieurs. Merci à Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police. Auteur, très prochainement, la pièce Rappelez-le-nous.
Piège pour un homme seul, comédie policière de Robert Thomas, un auteur français trop méconnu qui a disparu un peu des écrans radars.
C'est quoi, c'est un seul en scène?
Non, pas du tout. Non, j'ai fait ça une fois. On verra si je recommence. Non, là on est plusieurs sur scène. C'est une comédie policière. Okay, voilà, c'est une comédie policière et voilà.
Faut aller le voir.
Ça rend le sourire.
Gamal Abina, merci.
Merci.
Merci à vous. Merci aussi aux auditeurs au 0153483000. Merci évidemment à vous tous. Time Sport, 20h-21h, à ne pas manquer avec Bilal Nedman. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.